R22 Tout Monde, antenne La Fabrique Fantôme.
Bonjour, bienvenue sur la R22 Tout le monde. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Nariman Marie qui, pour son film Le Fort des Fous qui sera présenté ce jeudi 25 janvier au MK de Beaubourg dans le cadre des séances fantômes. Alors bonjour Nariman.
Bonjour.
Alors voilà, on va parler de ce film Le Fort des Fous qui est présenté, c'est sa première présentation à Paris, donc on est très content de l'accueillir. Il a eu un beau parcours, parce qu'il a débuté à Locarno, il sera bientôt au Festival de Rotterdam, il a voyagé à travers l'Europe et le monde. C'est aussi un plaisir d'accueillir un film comme ça. Moi, je suis content aussi de son parcours parce que je trouve que c'est aussi un film tout à fait singulier. Et on va parler un peu peut-être de sa genèse. Déjà, dans sa forme, ce qui peut être un peu... particulier qu'on l'appréhende, c'est que c'est un peu un film où il y a comme trois films à l'intérieur, qui sont aussi trois esthétiques assez différentes, qui ressembleraient à l'idée, en fait, de présenter un premier argument et de dire « ouais, mais aussi, et aussi peut-être ». C'est-à-dire comme s'il y avait la volonté, à l'intérieur même d'une proposition dont on va parler, de directement, je ne dirais pas en instruire le procès, mais la mettre elle-même en échec, ou en tout cas la mettre en tension, comme s'il y avait une forme de conversation Et qui, pour le coup, prend forme dans des styles différents à l'intérieur même de la proposition du film.
Oui, c'est exactement ça. Et en plus, je pense, c'est que je trouve que chaque forme, finalement, quand je travaille, correspond à ce qui est en train de se dérouler. C'est-à-dire, tu vois bien que la première partie, elle est parfaitement adaptée à l'ironie du propos, la distance qu'il faut avoir aussi, parce que ça parle de colonialisme, mais c'est pas qu'une question coloniale destinée à parler du colonialisme français. C'est beaucoup plus vaste que ça. C'est la pensée de domination d'un être vis-à-vis d'un autre, tu vois, qu'il faut réappliquer à quelque chose de plus quotidien. Et en fait, il fallait quand même que je mette cette dimension, tu vois. Et puis la seconde partie, il y a aussi à cette distance, c'est une espèce d'utopie auquel j'ai pas envie de croire, mais qu'on a tous envie de vivre quand même, tu vois. On a tous eu ce désir de s'échapper des systèmes et de tout ça, mais qu'est-ce que ça coûte. Et en fait, là, je crois que je me suis rendu compte de ce que tu disais dans la première partie quand j'ai commencé à travailler. En fait, quand j'ai fait la première partie, j'en pouvais plus des belles images. En fait, il y avait presque un rejet, un truc comme ça. Je me suis dit, c'est pas possible, quoi. J'étouffe. En plus, je fais l'image, tu vois. Donc, j'étouffais. J'arrive à la seconde partie. Je me retrouve dans un endroit, tu vois, cette île extraordinaire. Et quand je rencontre les personnes qui vont être dans la troisième partie, effectivement, ça m'a aidé à briser ce que j'étais en train de faire. C'est-à-dire, je ne pouvais plus rester dans la fiction pure, je ne pouvais plus rester dans la médiation. C'est-à-dire, tu vois, on transporte une image, alors on est là, il faut qu'elle soit possible à regarder, etc. Et à un moment, même ça, je crois que j'en étais fatiguée. Et c'est vrai que, comme le processus a été assez naturel, et la dernière partie était une surprise pour moi aussi, c'est-à-dire le film m'a plongée là-dedans, ça m'a vraiment permis de fabriquer ce dialogue et de casser et de créer aussi ces « et aussi ». Parce que tu ne peux pas vivre sans cet ensemble, en fait, je crois, sans cette...
Alors, à la fois, cette première partie qui, elle, va être... On va y revenir et puis voyager, justement, dans le film. Là, on commence dans un lieu, on pourrait dire presque comme pour un film de reconstitution, une forme de reenactment, où le lieu, les corps, les vêtements, donc, tendent à nous replonger dans cette image qui est je dis une image volontairement, c'est-à-dire qu'au lieu de documenter quelque chose, trouver ce qui pourrait être une sorte d'intensité d'image du colonialisme, c'est-à-dire à la fois ce fort en Algérie, mais à la fois cette présence très disciplinée de l'apprentissage, qui est accompagnée aussi d'une voix, de deux voix, de plusieurs régimes, quoi, de plusieurs voix, qui vont, elles, être des voix qui ont pour principe de quelque part discipliner un possible futur, c'est-à-dire entraîner les corps vers quelque chose presque d'indiscutable, d'irrémédiable. Mmh. Et ce qui me semblait très intéressant dans cette première séquence, partie du film dont on va parler, c'est que là on retrouve la puissance de la, comment dire, de performativité de la voix. C'est-à-dire, mmh. il va se passer ça. Et le corps, lui, quelque part, est entraîné dans ce qui va se passer et qui mmh. est énoncé comme tel.
Mmh. Ah, oui, tout à fait. J'avais vraiment envie de travailler sur cette voix. Déjà parce que on a fabriqué une voix, c'est-à-dire sans langage. C'est vraiment, en tout cas, c'est un langage qu'on ne comprend pas. On me le reproche un peu quelquefois parce qu'on me dit oui, mais ça voudrait dire que toi tu le comprends et nous non. Ça m'a un petit peu étonnée. Mais en fait, non, personne ne peut comprendre ce langage de domination. Personne ne peut comprendre là où on voudrait nous mener. C'est presque inacceptable. Mais j'ai quand même, je trouve. Aussi parce que ces jeunes gens qui sont entraînés, malgré tout, même s'ils sont assez malléables à cause de la rage, à cause de leur inconscience, on va dire, ou innocence, peuvent être amenés à adhérer à ça, à y croire. Ils ont une telle jeunesse et une telle énergie que le corps continue d'être un peu dans le désordre. Tu vois, ils essayent, mais en même temps, tu vois, ils s'échappent, quoi. Il y a déjà leur... toute leur, je trouve que leur... encore, j'ai coupé pas mal de scènes, mais leur sexualité, leur puissance énergique de l'âge, comme ça, est magnifique. Et elle vient beaucoup déranger cette voix. Moi, je trouve que ça me fait ça, en fait. Parce que même pendant le tournage, je me dis, merde, c'est trop fort, quoi, presque, tu vois. Et ça, j'aimais bien que le corps résiste. Tu vois, tu les vois, eux aussi un peu, parce qu'ils sont un peu moqueurs, on sent qu'ils ont peur et tout, mais j'aimais bien qu'il y ait cette forme de résistance qu'on ne peut pas empêcher, au fond. Si on a l'énergie qui est plus que celle de la conscience, quoi, tu vois, elle parle.
Mais je trouve que ça traverse aussi beaucoup le film, et ça traverse aussi beaucoup ton film précédent, on t'en évoquera, c'est l'idée en fait qu'il va y avoir des systèmes de construction politique ou d'organisation de l'histoire, mais qu'au fond, l'endroit de la résistance la plus radicale, c'est ce que le corps en fait, même s'il est marqué par ça. Mmh. Et là, tu prends pour origine, pour le début de ce film-là, un peu les textes, les vocabulaires et les récits de missions civilisatrices. Donc l'idée aussi qu'on va venir partir du principe qu'on apporte à une situation ou à des hommes, à des sociétés, quelque chose qu'ils n'ont pas. Et tu peux nous parler un peu de, voilà, comment tu plonges dans ce matériau-là et comment, effectivement, tu vois apparaître une possible résistance, parce qu'on le sait aussi, le risque des images coloniales comme des récits coloniaux, c'est leur puissance. C'est-à-dire que dès lors, et que moi j'étais amené à plusieurs reprises à travailler sur ce type de matériau-là, quand on y travaille régulièrement, on se pose la question de l'empoisonnement. C'est-à-dire, ces matériaux-là, à l'époque, il y a quand même des productions de photographie moyen format, il y a quelque chose qui est beau, mais qui est terriblement dérangeant dans cette beauté-là.
Terrible,
et donc, comment toi, tu te départis justement de cette beauté empoisonnée et à partir de quel corpus tu construis le début de ce film?
En fait, oui, donc j'ai vraiment cherché, j'ai fait un travail de recherche de ces témoignages, hein, que ce soit de généraux ou de soldats, c'était terrible aussi, les témoignages de soldats sont terrifiants pour ce qu'ils ont vécu, quelle que soit la raison pour laquelle ils ont fait ça. Alors, le rapport aux images empoisonnées, c'est que je mets ce photographe. C'est vachement important pour moi parce que, au départ, je me suis dit le photographe va me permettre de mettre une distance avec le sujet parce que c'est important quand même de garder la distance. On est dans une société qui a changé, même si tout est induit encore, tu vois, mais il faut quand même le dire qu'il y a du progrès, donc il fallait quand même que je le signifie. Mais en même temps, je me suis dit, mais il va me servir vachement plus que ça, puisqu'en fait, où tu prends ta liberté, donc c'est dans la façon dont tu regardes. C'est dans la façon dont toi, tu vas te libérer de ce qu'on t'impose comme regard. Donc lui, il a une commande. Fais-nous cette propagande. Et lui, en fait, c'est un jeune homme qui reste dans ce vivant et qui, tout d'un coup, a besoin de se rapprocher des autres. Donc, il va transformer la commande. Il va commencer à créer sa propre image, même si on ne le voit pas à l'image. C'est-à-dire, on va pas regarder le résultat de ces images. Mais on voit qu'il va fabriquer autrement. Au début, il est quand même très « Ok, je vais devant, je shoote ». C'est assez dérangeant, tu vois. Et ensuite, on le voit en train de faire des selfies, on le voit en train de faire des conneries. Et tout d'un coup, tu te rends compte qu'il est en train de transgresser, qu'il est en train de se libérer de ce qu'on lui ordonne ou du regard esthétique, etc., qu'il est en train de fabriquer une autre image. Et c'est pour moi un grand signe de liberté, tu vois, et qu'on en a la possibilité. Enfin, en tout cas, je lui laisse le pouvoir de le faire, quoi, dans le film. Mais c'est vrai que c'est des images qui font peur. Bon, ça, c'est clair. Hein, de... Je ne les ai pas mises parce que je pense que c'est à... Enfin, tu vois, moi, j'entends encore des gens qui les trouvent belles, qui n'ont pas la conscience de ce qu'elles représentent, quand même. Mais bon, voilà. Donc, moi, je me suis dit, on s'en libère et puis c'est lui qui me sert de ça, quoi, voilà.
Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à travers cette pratique du photographe, et puis même tout ce début du film, qui a une dimension intemporelle, dans un lieu qui est...
C'était mon lycée,
Donc ça a été un lycée dans lequel...
Ouais, mais c'était les bâtiments de De Gaulle pendant la guerre. Il était là, c'était quand même super beau. Hein. Enfin, j'avais de la chance aussi, moi, mais...
Donc, tu vois, donc il y a cette traversée-là entre le bâtiment de De Gaulle, le bâtiment militaire vraiment, qui va d'ailleurs... Il y a une boucle qui se réalise à travers ce bâtiment. Toi, en fait, qui va y passer un moment d'apprentissage, qui est quand même aussi l'endroit où, quelque part, on tente de nous mettre dans un certain récit dans la tête. Et puis, toi qui reviens là pour, quelque part, reboucler cette histoire-là. Et ce qui m'intéresse avec le photographe, c'est que lui, il va aussi opérer une rupture temporelle, parce que le film pourrait être un film d'époque, quelque part, à un moment donné. Et puis, il introduit des choses qui nous mettent dans le contemporain, alors que, finalement, ce qui est très maîtrisé, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de signes du contemporain. On a quelque chose, on ne sait pas exactement si on reconstitue, si on rejoue. Et l'idée même que l'histoire puisse se répéter, elle est quand même rompue par lui, ça, à la manière dont il sort, en fait, de la répétition de l'histoire. Mais ce qui me semblait aussi assez intéressant dans ce que tu proposes à ce moment-là, c'est justement aussi de... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans ta proposition du début du film, de voir en fait comment ça va aussi déborder. C'est-à-dire il y a un cadre, une proposition, mais c'est presque de se dire, bon, si je pose ça, qu'est-ce qui va faire que ça ne fonctionne pas complètement? Et comme tu dis, que ces corps n'appliquent pas complètement cette mémoire-là.
Oui, j'ai besoin aussi d'éprouver pendant le tournage, même si, de toute façon, bon, moi, je ne choisis pas mes protagonistes. Hein. Je fais très peu de choix, je laisse venir les gens, et puis on se choisit, en fait. Hein. Tu vois, c'est toujours des aventures un peu délicates. Donc, mais en fait, tu sais très bien qu'on se choisit aussi pour... parce qu'il faut qu'ils transportent ça, en fait. Il faut qu'ils... Faut qu'il y ait cette possibilité de débordement, de refus. Je peux pas prendre, à part si je le décide vraiment, des êtres qui se soumettent, parce que du coup je le cherchais déjà. Hein, je voulais absolument qu'on, même si le film condamne l'innocence et finalement la première partie pour moi il meurt, même si c'est pas significatif, mais ils vont mourir dans cette aventure. Mais j'avais besoin effectivement que déjà dès le départ que se fabrique le débordement pendant le tournage. Quoi. Il fallait que ça existe et que ceux qui pouvaient le faire. Enfin, moi, je laisse énormément de liberté. Les gens sont assez surpris. J'ai besoin qu'ils existent. Je vais dire, ok, on se lève à telle heure quand même, on est là, mais tu vois, ils arrivaient la tête dans le cul quelquefois, et j'adore même la séquence d'entraînement, là où j'ai pas mis des gros plans, parce que c'était trop drôle, ils étaient vraiment comme ça, et il faut que ça se vive aussi à l'intérieur même du tournage, parce que c'est très drôle.
Parce que du coup, le corps actualise quelque chose, que je trouve que tu trouves ton personnage là de colonel, qui si on fait un casting, on prendrait peut-être quelqu'un de plus âgé, de plus... entre guillemets, ce qui est très fort, c'est que ça marche bien, parce que ça révèle quelque chose dans un corps jeune, qui est un peu inattendu, parce que la figure du colonel dans un film classique de reconstitution un peu historique, on aurait pris quelqu'un de différent de ça. Mais ce corps-là arrive à le faire, mais ouais. Il fait quelque chose de particulier.
Ouais, il est c'est assez marrant parce que c'est un jeune homme charmant, mais qui a une brutalité, justement, cette force, tu vois, on parlait d'énergie tout à l'heure, que t'as, qui s'exprime beaucoup par cette explosion de sexualité, par exemple, comme on peut dire, ou comme on peut ressentir quelquefois. Mais là, c'est plutôt, il peut pas, il est tellement ambitieux, tellement il l'est au fond de lui, parce qu'il faut qu'il déborde et dépasse. C'est quand même aussi des gens qui sont dans des situations pas simples en Algérie. Et en fait, qui porte cette, oui, cette force, cette puissance qui peut l'aider à réussir, ce garçon, qui peut l'aider à réussir à dépasser ce qu'on va l'empêcher de faire et ce qu'on l'empêche déjà de faire dans des pays comme ça. Et en fait, je m'en suis servie pour que ça devienne, pour que ce soit mal utilisé. C'est-à-dire, cette force, elle est formidable pour lui, parce que là, je le sais, on s'est retrouvés à New York, c'était super drôle et tout. Mais dans des pays comme ça, ou dans d'autres pays, il faut des forces majeures pour pouvoir sortir de situations aussi enfermantes. Mais du coup, j'ai pris cette force pour en faire... Ce qui est terrible, c'est qu'avec une force comme ça, si tu l'utilises pour dominer, ça a un impact terrifiant.
Oui, c'est efficace.
C'est énorme. Très efficace. Donc en fait, je l'ai juste transformé, mais il le savait qu'il allait avoir le rôle du méchant quand même.
Mais du coup, tourner cette première partie-là en Algérie aujourd'hui, comment ça se passe? Comment tu l'amènes à tout le monde? C'est quoi? Parce que du coup, toi, tu vises quelque chose, mais c'est aussi un pays que tu connais. Tu connais aussi la résonance de la question historique. La question de la maîtrise, de la mise en récit de l'histoire et de l'archive dans ce pays, qui est quand même un enjeu important. Comment on vient avec un projet comme ça et comment ça se passe quand tu mets en place cette première partie?
Bon, j'essaye de pas trop penser, déjà. C'est-à-dire que après l'aventure de Loubiahama, où en fait il y a des réceptions difficiles, c'est-à-dire que quand tu touches à l'histoire, etc., on peut t'en vouloir, mais partout, ici aussi, hein, j'ai... En fait, entre la France et l'Algérie, c'est toujours les pays les plus difficiles pour moi. Après, ailleurs dans le monde, c'est parfait. Mais faut pas croire, ici, ça compte aussi énormément. Et en fait, oui, j'y pense pas. Je me donne toute liberté de toucher à tout. Quand tu fais, par exemple, le Biahamra, on parle de révolution, où ils ont un désir de faire la révolution parce qu'ils pètent et qu'on les a humiliés. Mais c'est presque, tu vois, déjà quand tu fais ça, tu te dis, bon, je peux faire le suivant, tu vois. Donc, je me dis, je ne vais pas non plus trop y penser. Et ça n'a pas été simple sur scénario. On n'a pas soutenu le film en Algérie, mais ce n'est pas grave, ils en soutiennent d'autres. Moi, et puis il y a une chose aussi qui est intéressante dans un processus de travail, c'est que je fais le film avec eux, mais à côté, je travaille toujours, mais quel que soit l'endroit, sur des questions très personnelles, sur le pays, sur leur rapport au pays, etc., avec tous les protagonistes, sur leur vraie perception de cette histoire, c'est-à-dire des choses qu'on ne met pas dans le film, des choses qu'on ne met pas dans le jeu, mais où on se regroupe, où on discute, où aussi parle de ce aujourd'hui où, par exemple, je leur demande comment ils pensent, parce qu'il faut rester dans cette histoire de domination, comment ils pensent être vus par le monde, par exemple, aujourd'hui en Algérie. Et tu vois, toute cette jeunesse, t'as vu comme ils sont magnifiques, me disent oui, mais on est vus comme des terroristes, on n'est que ça, quoi, aux yeux du monde, donc c'est super dur. Et ils ont un sens de ce que j'appelle l'humiliation, j'en reviens, parce que s'il y a une réalité. Et d'une conscience plutôt actuelle. Mais je pense qu'il y a de l'actualité quand même dans cette première partie. C'est toujours là, en fait, puisque je peux pas l'effacer ni de moi, je peux pas me faire de tu sais comment on dit
de reconstitution.
Ouais, c'est impossible.
Mais surtout, ce qui est assez intéressant, ce que tu fais par contre, et qui est un éclairage du présent, je trouve très beau, c'est que tu repasses par un discours de Nicolas Sarkozy, qui est complètement dans l'époque, il pourrait être à cette époque-là, et justement, qui rappelle combien, et tu as raison de le dire, en France, sont des questions extrêmement difficiles à travailler. Moi, je notais avec un collègue récemment dans un colloque combien on était le pays qui avait le mieux réussi à maîtriser la mise en récit coloniale, parce qu'on a une production extrêmement faible au regard de la taille et de l'histoire de notre empire. Dans n'importe quel pays qui a même eu un tout petit empire, un tout petit territoire colonial a déjà, c'est pas combien de films. Nous, ça, le travail a bien été fait en termes de système de financement, de production. On est quand même, l'Algérie reste un truc par exemple très très minimal par rapport à la taille de l'histoire dans le cinéma français. Donc le job est fait en quelque sorte. Et à côté de ça, c'est vrai que l'apparition de ce discours de Sarkozy au milieu de discours plus anciens ne dénote pas, continue à être presque la même voix.
Totalement.
Et je trouve que ça, c'est une opération politique très intéressante, de montrer que finalement, c'est dingue, on est quand même globalement dans les mêmes choses, avec des vocabulaires qui sont extrêmement proches.
Oui, tout à fait. Puis même là, ça a continué. T'as entendu ce qui se passait là, aujourd'hui, avec Macron et tout ça. Mais, et surtout, je crois que... Effectivement, tu imagines quand j'ai fait la découverte de ces textes de l'époque et que bon, j'avais entendu le discours de Dakar. Déjà, il y en a plein qui ne le connaissent pas, ce discours. Je suis quand même un peu... Et je me suis dit, mais non, mais c'est énorme, quoi. C'est-à-dire, c'est formidable. C'est un cadeau de montrer la continuité. Mais je pense aussi, ce qui me touche le plus, peut-être en France, c'est que ce soit vis-à-vis de l'Algérie ou de sa propre histoire, c'est comment on peut ignorer à ce point la construction de sa société. C'est-à-dire que j'ai eu à travailler avec des gens formidables et tout ça, j'ai pas. Mais c'est juste que la conscience de cette pensée dominante sur l'autre, tu te souviens, il y a quelques années, cette association qui avait emmené des enfants en Afrique, qui avait des parents pensant que c'était mieux qu'ils soient là parce que ça allait les sauver. C'est toutes ces choses qui peuvent être des pensées formidables à leurs yeux. C'est exactement la même pensée que le colonialisme. Je vais y aller, je vais les civiliser, on va leur amener là. En plus, c'était très perfide parce qu'une fois qu'ils ont perdu parce qu'ils se sont quand même bien fait massacrer au départ, ils se sont dit non, attention, on va commencer à les éduquer, ils vont nous aimer, tu vois, je leur amène les sciences et tout ça. C'est-à-dire, c'est toujours une pensée assez pervers qui continue de rester dominante. Et si tu ne sais pas ça de ton histoire, si tu ne la regardes pas, si tu ne regardes pas d'où tu viens, par quoi tu es transporté, moi, il y a des gens encore aujourd'hui qui me disent que c'est faux. Que la France n'a pas été un presque, bon, ils connaissent l'histoire coloniale, mais ils ne savent pas jusqu'où c'est allé. Et c'est vraiment dommage parce que dans la nouvelle génération, ou même ceux de 40 ans, enfin, c'est assez difficile parce que c'est presque comme si la discussion ne pouvait pas aller plus loin que des faits. Et du coup, la prise de conscience. Tu vois, moi, je trouve qu'on est en France dans un pays excessivement confortable, quoi. Et on y a droit, d'accord, parce que c'est formidable qu'un pays soit confortable par rapport à d'autres. Mais aujourd'hui, on est aussi dans une société qui a absolument besoin de réagir, qui a absolument besoin de pas laisser faire ce qui est en train de se faire, etc. Et il y a très peu de gens, très peu d'actions. Et je pense que cette prise de conscience doit exister chez tout le monde si on veut... participer à une situation du monde aujourd'hui où on doit être actif, quoi, tout simplement. C'est-à-dire il y a une ignorance qui quelque part, à un moment, je suis désolée, mais rend bête, quoi. C'est-à-dire, tu discutes et tu dis non, mais il y a un problème. C'est-à-dire, à un moment, tu vois, c'est pas possible qu'on soit si loin de ce qui nous constitue, quoi.
Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Dans cet univers où la nature commande tout, l'homme échappe à l'angoisse de l'histoire qui tenaille l'homme moderne. Mais l'homme reste immobile au milieu d'un ordre immuable où tout semble être écrit d'avance. Jamais l'homme ne s'élance vers l'avenir. Jamais il ne lui vient à l'idée de sortir de la répétition pour s'inventer un destin.
Ce qui rend compliqué cet exercice-là, c'est que si on va au bout de ce raisonnement-là et qu'on commence à bien le comprendre, on comprend à quel point, en fait, la situation dans laquelle on est installé, y compris matériellement, est totalement dépendante de ça. Ce qui est un sentiment, moi j'ai pu l'expérimenter, extrêmement désagréable, pour considérer que ce qu'on considère comme être normal, ou des conditions normales, ou de base, sont en fait construits historiquement sur des stratégies de pillage. Et quand on le sait, ça devient problématique, parce que là on se dit, oui, du coup, où on en serait, où on en serait si on n'avait pas fait ça? Et comment, et comment on va pouvoir en sortir si on ne veut pas faire ça? Et je pense que dans le second argument est utilisé en plein, y compris par les gens qui dirigent ce pays aujourd'hui, pour dire personne n'a envie d'en sortir d'un point de vue des conséquences. Donc l'histoire qu'on nous ramène nous sert à rien, parce que si on la connaît, elle a des conséquences qu'on n'a pas envie d'avoir. Donc effectivement, il y a une espèce de volonté, comme tu dis, pas simplement une forme d'ignorance volontaire, en disant ouais, là c'est trop vertigineux, parce que quand on commence à y aller, avoir les contenus, c'est vertigineux évidemment. Et ça pose des questions, mais bon, moi qui sont propres aussi, et ce qui, les autres polémiques qui apparaissent en ce moment autour des, voilà, mais ne serait-ce que de discrimination homme-femme, une fois qu'on prend conscience de ce que ça a comme conséquence, il faut avoir le désir d'aller jusqu'au bout de la conséquence. Et je pense que le jeu politique, c'est de donner l'impression qu'un changement trop radical n'est pas souhaitable. Et du coup, finalement, on fait redescendre la chose. Et pour parler de ces questions d'utopie, il y a la deuxième partie du film, où là, tu te lances dans quelque chose d'autre. Là, on va... Alors du coup, tu vas tourner sur une île grecque. On peut nous dire pourquoi tu choisis ça. Est-ce que c'est une impossibilité technique de le faire ailleurs, ou c'est aussi l'idée d'avoir une espèce d'utopie au sens vraiment un endroit qui serait un endroit coupé de tout, dans lequel justement une proposition d'une communauté un peu radicale pourrait être expérimentée?
C'est les deux. En fait, je devais tourner dans le désert en Algérie. Et il y a eu quelques petits problèmes au moment où je devais le faire, et j'ai décidé de tout changer au mois d'août pour aller shooter à Kitira, qui est une île grecque, et qui finalement, l'avantage du désert, c'est qu'on partait de rien, c'est-à-dire que le rêve, il est peut-être encore plus fou, plus profond de réinventer une société, tu vois, et peut-être plus rugueux. J'aurais fait un truc beaucoup plus dur dans le désert, ce qui m'intéresse quand même. Mais bon, comme j'ai pas pu, on part tous. Enfin, je fais un casting sauvage et tout. On s'embarque sur l'île de Kitira.
C'est quand même une cinquantaine de personnes.
Ouais, c'est plus de ça. Ouais, c'est fou, quoi. Que je connaissais pas. Et en fait, on débarque sur cette île et je me dis, mais c'est parfait. Bon, j'étais quand même allée la voir un peu avant. Et c'était parfait parce que justement, elle portait encore plus. Idéalistement, j'aime pas la critique du mot utopie parce que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Mais tu vois, c'est ces rêves presque enfantins, tu sais. Pour moi, on retombe en enfance, c'est-à-dire comment t'échappes. C'est presque aller. Il y a deux choses dans cette deuxième partie. Soit tu vas te ressourcer dans ce qui t'a porté dans l'enfance. Bon, moi, c'était pas de rêver d'être dans une île et puis de vivre tout nu, même si j'aime beaucoup ça. Mais c'était plutôt, retourne à ce qu'il y a de plus simple. Tu vois, c'est-à-dire, t'as pas besoin de fabriquer des trucs énormes, t'es dans une végétation, tu vois, c'est une image d'épinal plutôt, voilà, c'est ça qu'on cherche. Une espèce d'image d'épinal, et c'était parfait. Et là-dedans, franchement, on s'est balancé là-dedans et on a laissé faire, quoi. Et c'était très marrant parce que quand je filmais, j'avais vraiment l'impression, pour de vrai, parce qu'ils sont pris au jeu, parce qu'on est arrivé à 50, on se connaissait pas, on bouffait ensemble et tout. Et j'avais vraiment l'impression qu'ils étaient en train de devenir une communauté, que je les filmais. Et c'était très, très émouvant quand même. C'était très fort. Mais bon, après, j'ai dû quand même limiter la... Parce qu'il y a tout ce chemin que font les êtres humains entre eux pour se découvrir. Tu vois, c'est presque animal. Hein. On commence à se toucher, on se regarde, on machin, on partage. Tu vois, ces petites choses. Tiens, je te donne un peu un truc, toi, un truc, tu vois. Et tu vois ça entre 50 personnes. Bon, moi, je l'ai vécu. C'est pas forcément ce qu'on voit dans le film parce qu'il fallait que je limite le propos. Et là, le propos, il est plutôt de dire tu peux chercher à inventer ce que tu veux. à croire que c'est possible, parce que c'est merveilleux de penser qu'on réécrit l'histoire, ou qu'on l'a, ou qu'au moins on s'y oppose en partant, peu importe. Mais par contre, il faut quand même être dans la conscience, hein, c'est pour ça que Pasolini était avant aussi, le texte de Pasolini, parce que sinon, tu vois, là, il y a eu un problème, je n'ai pas envie de passer du temps sur le problème, il y a un problème dans la communauté, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de trouver un responsable. Donc c'est toujours aussi, c'est, tu vois, c'est
quand il y a une forme de reproduction aussi à des moments, à un moment donné, de ce conditionnement-là que tu vas présenter dans la première partie du film. On dirait que sans la mettre en critique, ta communauté, tu montres qu'on ne se libère pas de tout,
non,
en changeant juste ça.
Exactement. Et puis qu'on se libère pas déjà de nos trucs très primitifs, de dire que parce pour avoir une certaine sécurité, pour penser que tu gagnes sur le mal, tu condamnes. C'est-à-dire qui est responsable, donc une fois qu'on a détruit le responsable, on va mieux. En fait, c'est absurde, c'est-à-dire c'est aussi le problème des guerres civiles. Bon, moi, j'ai pas été physiquement dans la guerre civile en Algérie ou dans plein d'autres pays. C'est le cas aujourd'hui de partout. C'est aussi, tu vois, et j'en reviens presque à l'histoire du réfugié aujourd'hui qui devient le responsable de telle situation. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y ait une condamnation et aveugle, très souvent. Et tu vois, c'est fait de manière très simple hein, dans le film, c'est presque enfantin. Mais c'était bien que je puisse j'avais vraiment envie de le faire, quoi, tu vois, de dire. Enfin, moi, ça m'épuise, tu vois, cette histoire de responsabilité. Lui, il est responsable que tu montes du doigt, que tu dénonces, que tu machin, tu vois, c'est impossible qu'on passe pas du temps au moins à entendre l'autre, à pas désigner un responsable.
Mais là, on voit que finalement, la communauté va se constituer malheureusement dans ce mode aussi qu'on connaît bien, comme tu dis, de dénonciation, c'est-à-dire qu'au lieu de s'interroger dans ses complexités, ou en tout cas, elle va un temps suspendre son interrogation en tant que communauté, pour se souder et pour quelque part se fonder communauté à partir. Alors ça va être la question des grands récits, pour des nations, ça va être la question des grandes figures du mal, dont certaines, dans le moment contemporain, on est plutôt d'accord qu'elles sont les figures du mal, mais dont on se rend compte que les pointées consolident d'une manière artificielle une communauté qui n'est pas si solide que ça, qui aurait besoin de s'interroger elle-même sur ses propres contradictions. Là, on trouve qu'il y a ça. Et puis, il va y avoir ce moment de rupture, en fait, théâtral, qui est un moment quand même fort du film. Voilà, finalement, on élimine. Alors, c'est drôle parce que je repensais à Lubia Amra où la question de la théâtralité était quand même un enjeu, quoi. Refaire l'histoire, c'est rejouer l'histoire, c'est réincorporer l'histoire, c'est repenser une forme théâtrale comme quelque chose qui est dans le corps, qui doit se réanimer. Là, c'est le théâtre, mais c'est un espèce de théâtre qui anéantit tout. T'as ce personnage qui arrive et qui va tuer l'audience en quelque sorte, quoi, qui va se mettre à fusiller une audience à main nue dans un théâtre, ceux qui viennent le regarder, rappelant d'une part qu'on est aussi dans un mode de représentation. Ouais, donc petit rappel, c'est qu'on ne vit pas, on est dans un mode représenté et que lui quelque part l'annule en tirant quasiment sur ce qui serait l'audience. Donc il y a audience aussi et donc il y a aussi un jeu qui est déconstruit. Comme si encore une fois le premier chapitre va quelque part tu vas le démonter avec quelque chose, une forme beaucoup plus radicale, mais à la fin de cette forme là de nouveau tu dis oui mais attendez, ça c'est aussi une forme et il faudrait essayer d'aller vers quelque chose encore d'autre, quoi.
Tout à fait. Et les gens, tu sais que ce passage-là, il y en a plein qui me disent non mais ça servait à rien, ça les déprime qu'il y ait la dernière forme. Parce qu'en fait, je pense qu'ils se laissent faire quand même par la première et deuxième partie, tu vois, parce que les images sont belles, machin, même si le propos est dur. Mais alors la dernière, il y en a même qui disent que je me suis tiré une balle dans le pied, quoi. Que tu vois, ce genre de choses, c'est génial.
Et comment elle te vient cette idée d'un format d'un cinéma beaucoup plus presque direct, du coup, c'est aussi toi dans une énergie du tournage ou c'est dans l'écriture, tu avais déjà l'idée que quelque chose devait se terminer ? Ou comment tu pensais finir justement au départ ?
Non, en fait, au départ, je finissais vraiment en images de fin du monde, où j'avais fabriqué des perceptions ou des créations visuelles de fin du monde, qui était une pensée que j'avais, qui m'intéressait beaucoup. Mais après, à la rencontre de cet environnement à Athènes, j'ai vraiment adoré rencontrer cette rugosité, cette réalité. Tu sais, je l'ai montré telle que je la vivais. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux faire? Tu crois que je vais faire de l'image, moi, dans un squat où il y a des gens qui résistent à un système destructeur et qui les assassine tous les jours? Je vais, moi, venir avec ma caméra et dire, attends, est-ce que tu peux te mettre un peu par là? On va faire une image. C'est-à-dire, c'est presque que j'étais en train de presque démolir aussi ce que j'étais en train de faire. C'est-à-dire, pourquoi j'étais en train de mettre tellement d'images. Bon, après, moi, j'aime l'image. Hein. Je veux dire, OK, il faut quand même qu'on s'éclate un peu, tu vois. Je suis bien, mais en plus, moi, je produis des documentaires, mais je ne suis pas capable d'en faire. Enfin, tu vois, je veux vraiment fabriquer de l'image parce que je trouve qu'il y a plein de dimensions que j'aime pouvoir toucher, comme tu parlais du corps et tout ça. Donc, du coup, là, il fallait juste que ça reste ce que c'était. Il était impossible pour moi d'écrire là-dessus. Impossible. Même d'intervenir, j'ai très peu de questions, je ne sais pas si tu le vois. Je ne veux pas, je leur ai dit, je vous donne des mots pour travailler, je donne des mots et on réagit. Mais moi, je ne questionne pas parce que tu sais à quel point on est manipulateur, qu'on le veuille ou pas, à quel point tu emmènes un chemin. Je ne voulais même pas me permettre à moi de même répondre à ma propre curiosité. Je me suis dit, il faut qu'on donne un mot, tu mets le mot argent et tu laisses partir. Tu mets le mot ça et tu laisses partir. Et ce que je voulais voir vivre, c'est ce que j'ai vécu et ce que je pense le spectateur va vivre, c'est la capacité d'un individu, d'un être, à fabriquer une pensée politique comme ça en direct. Il est quand même costaud, ce mec. Et c'était presque le talent que nous avons. Tu vois, c'est le talent de conscience et de capacité à se fabriquer une pensée politique. Et qu'on ne peut pas, quel que soit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la pensée politique est très intellectualisée, elle est donnée à des tas de gens ou des jeunes en rébellion. Là, c'est un autre cas de figure. Et c'était cette force-là que je voulais montrer, enfin, qui se montre, je pense, dans la dernière partie, avec deux êtres très différents, qui sont de milieux sociaux très différents. Mais il faut savoir, je peux le dire là, parce que c'est son avocate, en fait. C'est l'avocate de ces personnes-là. Et quand je lui dis, mais parce qu'elle est excessivement engagée, je lui dis, donc, tu as le même engagement, alors que tu es quand même une femme riche et tout ça. Et elle me dit, mais je suis pas engagée. Je suis eux, quoi. Et tu vois qu'ils aient fait ce chemin entre deux pour ne plus être dans un rapport au monde qui est figé à son contexte social, c'est formidable. C'était ça que je voulais faire. C'est qu'on ne peut plus regarder le monde en fonction de son contexte social. Ça ne peut plus exister, je pense.
Mais du coup, c'est comme une forme d'accomplissement, moi, je trouvais, de la seconde partie par rapport à la première. Si on dit que la première, elle est une organisation du monde de la modernité, c'est-à-dire effectivement stratifier les dominants, les dominés, et finalement, on est forcé de bien s'avouer que c'est effectivement aussi clair que ça, ce qui se passe. Mmh. La seconde partie, qui est une forme de libération avec les risques d'échec, parce qu'elle contient encore la première partie.
Tout à fait.
Et peut-être la dernière, c'est un horizon de se dire que finalement, peut-être que les puissants, à force de détruire trop de choses, laissent quand même beaucoup d'espace pour qu'on puisse reconstruire, on va dire, des hétérotopies ou des micro-fictions. Parce que là, ce qui est beau dans cette dernière partie, c'est que c'est très contextuel. C'est-à-dire, ça ne vaut pas comme une théorie globale, ça ne vaut pas dans un... On n'est pas dans les grands mouvements d'histoire, on est dans, est-ce que c'est possible, comme tu dis, de trouver, moi, ce que j'appelle un accord, comme on pourrait le dire des musiciens, de trouver un accord pour jouer dans cette scène-là maintenant. Est-ce qu'on, quelles que soient nos différences, ouais, est-ce qu'il y a un accord possible qui n'est pas du tout le consensus, hein, qui est un accord contextuel,
ah non, oui, surtout pas, ouais.
Qui est un contexte.
Et aussi peut-être une possibilité de se donner le droit, de se donner même le devoir de trouver cet accord. Enfin, en soi-même et de tu vois, c'est plutôt parce que on peut aussi me dire, beaucoup de gens voient ça plutôt comme une fin du monde, d'ailleurs, un truc très négatif, et ou pensent que j'ai une proposition plus de sortir avec des cocktails Molotov. Mais en fait, il y a quelqu'un qui me dit, mais il y a des perspectives aujourd'hui. Je dis, sauf que là, ce que je suis en train de montrer dans cette partie-là, c'est pas des perspectives, c'est de la survie. C'est-à-dire, au stade de la survie et de la nécessité de survie, le problème aussi, c'est que tu as du mal à construire des perspectives. Donc moi, là, avec Dimos, on va créer des assemblées, on va faire des choses, c'est-à-dire sur les territoires, on va nous laisser plus de temps sur le film. Lui, il est très engagé à Rojava. Il faut que le film serve à ça aussi. Donc moi, je vais le proposer, je le propose déjà. Mais c'est plus qu'on ait des espaces de participation et de... Tu vois, si les gens de Rojava, enfin, tu connais cette communauté qui est quand même assez formidable. Donc, du coup, c'est de... C'est quand même impensable de se dire qu'on a des perspectives. Là, moi, j'en suis pas là. On est tous en train de souffrir de ce qui est en train de se passer. On voit bien aussi que le capitalisme s'effondre, toutes ces choses-là. Mais voilà, c'était plus pour jouer le jeu du possible, voilà. Mais en tout cas, que c'est en nous. C'est pas la libération, elle commence par déjà nous sortir de l'histoire, quoi.
Merci Nariman, merci à toi. On se retrouve un peu plus tard dans la journée et bientôt sur les ondes avec et ailleurs aussi pour voir le Fort des Fous de Nariman Marie. On pourra le voir le 25 janvier au MK de Beaubourg dans le cadre des séances fantômes. Encore dans le tour du monde, peut-être en France bientôt encore. En tout cas, merci. On ne sait pas quand, mais on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait.
Merci en tout cas à toi.
Merci à toi Nariman. À bientôt.
Au revoir.